Le débat africain. Alain Foucault.
Inventif et sans complexe, ils se concentrent essentiellement sur les questions que se posent dans leur environnement et leur apportent des solutions modernes et pratiques. Ce qui se traduit de plus en plus par les nombreux prix qu'ils remportent à travers le monde. Les chercheurs et inventeurs africains du digital sont-ils en train de faire mentir ceux qui, au début de la décennie 90, annonçaient une grave fracture numérique fatale pour le continent noir? Dans le même temps, peut-on envisager un développement sérieux du numérique avec la mauvaise qualité de la connexion que l'on connaît un peu partout en Afrique? Ces talents ne sont-ils pas de fait bridés par leur environnement? Quelle est la place de l'Afrique dans la nouvelle technologie? Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Louis où s'enregistre ce dimanche, en marge du Forum de Saint-Louis, notre rendez-vous. Avec plusieurs invités sur ce plateau, d'abord M. Youssef Travali, le directeur scientifique de Next Einstein Forum, installé à Kigali au Rwanda, une des principales plateformes du digital au sud du Sahara, dont la vocation est de découvrir et fournir un lieu pour permettre aux chercheurs africains de s'exprimer, d'être connus et de se connecter. Ils sont à l'origine de la Semaine africaine de la science qui se tient un peu partout sur le continent. Second invité de ce plateau du comptoir du fleuve à Saint-Louis, Edith Brou, la patronne de Africa Contents Group, une entreprise digitale basée à Abidjan. Edith Brou est certainement l'une des blogueuses les plus actives de cette sphère en Côte d'Ivoire. Candace Nkot-Bissek est la fondatrice de la plateforme digitale fordevelopment.org, ancienne directrice du site de e-commerce Jumia Market au Cameroun. Elle a été élue numéro 1 de la liste Forbes Africa 30 des moins de 30 ans. Candace est aujourd'hui la directrice de Stanford Institute for Innovation in Developing Economies au Ghana. Aïssa Toussou, notre quatrième invitée, est la directrice du secteur public chez Intel. Bonjour Aïssa Toussou. De la décennie 90 jusqu'au début des années 2000, partout on parlait de la fracture numérique, de l'Afrique qui, encore une fois, prenait du retard dans le domaine des nouvelles technologies. Est-elle vraiment définitivement à la traîne? Sera-t-elle la dernière de la classe, Youssef Travali?
Moi, je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de retard par rapport à quelqu'un ou par rapport à des États. Je pense qu'il faut vraiment regarder quels sont les défis auxquels l'Afrique fait face, que ce soit des défis sur l'immigration, des défis sur l'esclavage récemment, des défis sur la sécurité alimentaire, et ainsi de suite, ou des défis sur la santé. Et c'est par rapport à ces défis qu'il faut définir nos ambitions. Donc, comment est-ce que nous allons résoudre ces défis? Nous sommes convaincus que c'est par la science que nous allons pouvoir faire face aux défis humanitaires auxquels fait face l'Afrique.
Oui, mais généralement, partout où on passe, les gens sont connectés. Partout où on va, les gens sont connectés. On a l'impression que cette fois-ci encore, nous sommes les moins connectés pour faire face à ces défis, Edith Brou.
C'est clair que nous sommes les moins connectés, mais notre progression en termes d'appropriation des usages du numérique est en pleine augmentation. Donc je pense qu'il y a du potentiel. On a connu le leapfrog avec le mobile money.
C'est quoi le leapfrog? Expliquez aux profanes que nous sommes.
On va dire le saut. On a sauté différentes étapes. En Europe, on n'utilise pas du mobile money. Après, ça dépend de certains opérateurs. Mais en Afrique, on a sauté le pas sur même l'usage même des cartes en ligne en passant directement au mobile money. Donc, on sait s'approprier certaines technologies en les adaptant à notre contexte local.
C'est peut-être ça aussi la spécificité de l'Afrique, c'est-à-dire qu'elle récupère des technologies, mais qu'elle adapte à son marché.
Exactement.
En tout cas, à ses réalités. Candace ?
Absolument. Et c'est l'unique recette, en fait, pour faire marcher, adopter et faire fonctionner n'importe quel service ou n'importe quel produit en rapport avec une nouvelle technologie en Afrique. Il ne s'agit pas de copier-coller quelque chose et l'imposer aux consommateurs. C'est vraiment comprendre le marché et réussir, comme elle l'a dit, Edith, M-Pesa, par exemple, à révolutionner le monde. L'Afrique, finalement, n'est pas en retard. L'Afrique a créé son propre rythme.
C'est-à-dire l'Afrique évolue à son rythme et avec ses réalités, en
Absolument.
Gros. C'est-à-dire il y a le numérique africain, alors.
Exactement.
On va dire qu'il y a le numérique africain et il y a des communautés, en fait. C'est surtout le travail des communautés sur ces 10 dernières années qui ont, je pense, aidé en cette appropriation du numérique dans toutes les chaînes de la population, dans toutes les parties du continent, même si c'est clair que toutes les parties du continent ne sont pas encore couvertes de la même façon, au même rythme, mais il y a une certaine dynamique grâce à ces différentes communautés.
Ce saut dont vous avez parlé, ce grand saut, dans quel domaine on le constate le plus? Je parle du secteur numérique en général, mais il y a des spécificités. Où est-ce que l'Afrique s'est illustrée le mieux en l'adaptant à sa réalité
Je pense que l'exemple le plus parlant, ça reste quand même les paiements cashless payment, donc des paiements dématérialisés. C'est clairement, mais
ce qu'on appelle le mobile money, c'est ça.
Absolument, absolument. Mais cela, une fois de plus, n'a été un succès que parce que c'est né au Kenya, enfin en tout cas la version connue M-Pesa est né au Kenya parce que Safaricom a intégré le facteur humain dans la manière de déployer.
Expliquez-nous un peu comment ça marche, parce que les gens, on parle toujours de mobile money, c'est très pratique, tout le monde l'utilise. Ça marche comment, très concrètement?
Tout simplement, c'est le fait d'avoir un portefeuille électronique dans son, pas dans son téléphone, mais dans sa puce ou dans son compte, le compte que l'on a avec son opérateur de téléphonie mobile. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir simplement un crédit téléphonique avec lequel on peut appeler ou envoyer des messages, ça, c'est un portefeuille qui peut nous permettre d'acheter des produits, d'acheter des services, de payer nos factures d'électricité, etc., etc. Et les gens le sont appropriés sur le continent. En tout cas, là où cela marche le mieux, parce que les opérateurs ont intégré un facteur humain. C'est-à-dire que pour passer de l'argent physique à de l'argent dématérialisé dans un continent sur lequel on a quand même peu confiance dans nos systèmes d'électricité, de l'administration, etc., les gens ont fait l'effort d'intégrer des agents humains pour éduquer et faire comprendre aux populations.
Avant de venir sur toutes ces spécificités, les gens qui nous entendent, et généralement quand on parle de numérique en Afrique, se disent c'est infaisable en raison de la qualité justement de l'électricité dont vous parlez, ou de la qualité de, on va dire, des infrastructures. Est-ce qu'on peut vraiment développer le numérique dans un environnement comme celui-là? Est-ce qu'on n'est pas handicapé de fait? Je vais exclure le cas du Rwanda qui est assez spécial et on va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que de fait, il n'y a pas un handicap, on n'a pas une chaîne au pied, Youssef?
C'est un peu compliqué. En fait, je pense que le numérique s'intègre avec plusieurs secteurs. Et développer le numérique sans avoir une bonne infrastructure, c'est clairement un problème.
C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que ça ne commence pas par là? Est-ce qu'on ne part pas déjà avec un boulet au pied? Vous parliez de mobile money, si vous n'avez pas l'électricité, si vous ne pouvez pas charger votre portable.
Et pour aller même plus loin, quand je travaillais au Cameroun et que je dirigeais Jumia Market, la valeur du numérique était de pouvoir permettre à des commerçants, des petits commerçants du marché, de devenir des acteurs nationaux et au-delà du commerce, en vendant bien au-delà de leur marché. Malheureusement,
l'e-commerce,
c'est très difficile de faire marcher un site internet, une entreprise d'e-commerce, quand la connexion est boiteuse et qu'on n'a même pas d'électricité pour brancher les ordinateurs.
Absolument.
Mais il y a un handicap en plus qui s'est rajouté ces dernières années sur notre continent, c'est le contrôle, c'est ce qu'on a, comment on appelle ça, les coupures d'internet pour des raisons politiques.
Absolument.
C'est un nouvel handicap.
C'est un autre.
Absolument.
Une autre difficulté qui vient se rajouter. Au lieu de courir, au lieu de marcher, on a du mal à ramper.
Voilà, on rampe même pas. Voilà.
je pense que c'est vraiment tout ça le danger, parce que là, on est en train de mettre l'accent sur le développement du numérique, mais aujourd'hui, la notion de secteur, c'est une notion qui est obsolète. Je pense qu'on a une convergence des secteurs.
Exactement.
Développer le numérique, développer le secteur de la santé sans développer le secteur du numérique, ça ne marche pas. Développer le secteur de l'énergie sans développer le secteur de la mobilité, du transport, ça ne va pas. Donc les secteurs ont tendance à converger aujourd'hui les uns vers les autres. Et donc il y a un grand danger à mettre, je dirais, une priorité ou un accent sur le numérique de manière pure et simple.
Mais il faut que l'on pense d'abord aux infrastructures, non?
Oui, c'est la priorité. C'est la priorité. C'est clair que c'est la priorité. Parce que, comme elle a dit, de toute façon, lorsqu'on se retrouve avec une coupure d'électricité pendant qu'on est au travail, vous allez remarquer...
Mais la journée est terminée.
Tout le monde s'arrête.
Oui,
il n'y a plus rien, personne ne fait plus rien parce que la base, c'est pouvoir envoyer un email, pouvoir faire une opération de e-commerce grâce à l'électricité, grâce à des câbles réseau, par exemple. Mais moi, je dirais que je suis un peu plus optimiste parce que je vois les efforts qui sont faits.
Selon les pays,
ça c'est clair.
Et selon les circonstances politiques.
Selon les circonstances sociales. Mais depuis 10 ans, lorsqu'on compare la courbe d'évolution, déjà on se retrouvait avec des connexions de 256 kilobits il y a encore 10 ans, c'était laborieux. Et aujourd'hui, on se retrouve en moyenne avec des connexions de 1 mégabit ou en moyenne. Mais ça dépend
oui,
des pays.
Ça dépend des pays. Parce qu'il y a des pays où, quand vous arrivez, vous oubliez un peu la connexion.
Exactement.
La connexion. Youssef?
Mais l'infrastructure est une priorité, il faut faire attention. Je crois qu'on est clairement dans l'économie de la connaissance ici. Dans l'économie de la connaissance, il y a quatre piliers. Quand on parle d'économie de la connaissance, un, c'est le capital humain. Il faut développer le capital humain. Deux, il faut développer l'infrastructure. Infrastructure au sens large, donc infrastructure de recherche, infrastructure IT, infrastructure médicale pour si on a des médecins de pointe et ainsi de suite. Donc là, nous sommes au niveau du second pilier. Le troisième pilier, c'est la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire qu'il nous faut un leadership. Un leadership au niveau étatique. Il nous faut des industries ou un secteur privé qui comprend que c'est grâce à l'innovation qu'elle va se développer. Et il nous faut une économie de marché, il faut un marché pour pouvoir absorber toutes ces technologies. Et le quatrième pilier, on en a parlé dans le cas d'M-Pesa, c'est l'acceptation par le public. Donc comment est-ce que le public va accepter l'innovation ? Aujourd'hui, il est clair que le mobile money a été accepté, mais il y a beaucoup d'autres technologies qui n'ont pas été acceptées par le public.
Lesquelles, par exemple ? Parce qu'on a l'impression que les populations ne demandent que cela.
Un exemple frappant, c'est le solaire. Le solaire, c'est une technologie qui a atteint sa maturité en termes de développement depuis 2005.
Et
c'est
vraiment ? Parce qu'on a le sentiment que ce n'est pas encore à maturité, que ça ne marche pas
justement,
encore.
Justement, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est aujourd'hui en 2017 qu'on commence à entendre que les pays africains sont en train de déployer des centrales solaires.
Comme ici au Sénégal.
Comme ici au Sénégal. Désolé, on est 10 ans en retard, même plus. C'est des technologies qu'on aurait dû adopter déjà il y a une dizaine d'années. Et donc, il y a vraiment ces quatre facteurs.
Mais là, vous
qu'il
mettez, pour parler des quatre secteurs, on va aller un peu plus loin. Mais vous mettez l'accent sur quelque chose qui est important, qui est la volonté politique en réalité. Là, vous arrivez du Rwanda, il y a une vraie volonté politique de développer les choses et ça avance.
Absolument. Je crois que dans le cas du Rwanda, il a été clairement développé l'économie digitale et c'est quelque chose qui a été clairement mis en avant et on met en place un hub d'innovation pour développer cette économie digitale et vraiment pouvoir capitaliser dessus.
Comment ça se passe exactement ?
Mais comment ça se passe ? C'est amener, par exemple, on a un aspect qui touche au niveau capital humain, c'est qu'on a amené aujourd'hui au Rwanda l'African Institute for Mathematical Science pour développer vraiment l'économie sur base, je dirais, des mathématiciens, mathématiques au sens large. On a fait venir Carnegie Mellon University pour l'ICT. Aujourd'hui, il y a ALU, l'African Leadership University, qui s'installe pour le niveau management. Et donc, c'est tout un écosystème qu'on met en place pour pouvoir vraiment capitaliser sur le digital. Alors, une fois que cet écosystème est en place, on va pouvoir attirer maintenant des compagnies étrangères dans le secteur privé pour venir et injecter des fonds et pouvoir vraiment développer cette économie.
En tout cas, le Rwanda, dans ce domaine-là, c'est particulièrement illustré. Ça marche. Est-ce qu'au Kenya, c'est pareil ?
Oui, le Kenya également sont très avancés. Quand on parle d'économie numérique, d'entrepreneuriat dans le domaine numérique, le Kenya et le Rwanda font parmi les pays qui attirent le plus finalement les investisseurs, etc. Parce qu'ils ont sans doute, je ne sais pas pour le Rwanda, mais je sais que le Kenya a une culture qui est d'abord intrinsèquement libérale, qui facilite l'ouverture aux nouvelles technologies, ce qui n'est pas forcément l'état d'esprit le plus partagé.
C'est le jour et la nuit entre le Cameroun que vous avez connu et le Kenya, non ?
Oui, il y a une très forte marge de progression potentielle au Cameroun, si je peux m'exprimer ainsi.
Ah oui, là vous parlez politique un peu.
Qui me comprennent, qui m'entendent, entendent. Mais...
Là vous parliez tout à l'heure, Youssef, du fait qu'il faut une volonté politique, en gros, je résume de façon globale. Est-ce que lorsqu'on regarde l'ensemble de ces pays-là, on n'a pas l'impression que les dirigeants n'ont pas compris les enjeux véritables du numérique ?
Donc, pour aller plus loin... Je pense qu'on est encore au stade où on a des dirigeants qui ont peur du numérique, comme certains de nos grands-mères ont peur des sorciers, ou comme certains de nos ancêtres avaient peur des colons, parce qu'ils avaient une peau de couleur différente. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est. On a entendu dire qu'il y a eu un printemps arabe qui a commencé par les réseaux sociaux. On bloque tout, parce que vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Quoi.
C'est vrai. Et dès qu'il y a une élection, on coupe.
Je suis dans la même ligne que Candace, parce que je pense qu'ils identifient encore le numérique comme... une menace. Bon, déjà, on a toujours le problème, en tout cas chez nous, des brouteurs qui prospèrent toujours. Mais le fait qu'on a des activistes qui ont le moyen d'utiliser Twitter ou Facebook pour mobiliser des foules et pouvoir faire des actions, c'est toujours très, très mal vu et c'est un outil tellement puissant.
Oui, moi, je pense qu'il faut... Le problème est plus profond que ça et ça va au-delà du numérique. Parce qu'il y a des développements aujourd'hui très pointus qui se font dans le domaine de la médecine qui ne sont pas... dont les gouvernements ne s'accaparent pas pour capitaliser dessus. Il y a des développements qui se font dans le domaine de l'économie circulaire. Encore une fois, on ne se jette pas dessus pour s'approprier les technologies. Donc c'est un problème, je dirais, plus profond que seulement avoir peur de l'impact du numérique sur la stabilité d'un gouvernement. Je crois que c'est vraiment un problème de process ou de bonne gouvernance.
Quand on écoute ça, je pense que vous êtes plutôt gentil, puisque dans le même temps, il se développe dans d'autres choses. Soyons positifs en disant, quel est le domaine dans lequel on a vu véritablement une avancée, en dehors du mobile money? On a écouté pas mal d'inventions ces dernières années qui étaient faites par les Africains. Est-ce que cela veut dire, dans le même temps, que malgré le fait qu'il n'y ait pas de volonté politique, les jeunes ont choisi de se former et qu'il y a de la ressource humaine dont parlait Youssef à l'instant?
les jeunes n'ont pas choisi d'attendre. Je pense que nous, même dès l'époque, en 2010, on n'avait pas choisi d'attendre de recevoir une aide du gouvernement pour pouvoir, par exemple, lancer notre association qui fait la promotion d'Internet. On a démarré, on a organisé un barcamp. On nous prenait pour des fous. En 2011, on a organisé le deuxième barcamp. Google nous a sponsorisés. On n'a pas attendu. Je pense que c'est, je parlais tout à l'heure de communauté, la force des communautés qui drive et qui permet de faire comprendre aux populations l'intérêt et l'importance de l'usage des réseaux sociaux, même s'il y a encore des efforts à faire au niveau des infrastructures. Donc c'est un travail qui a permis à un moment de faire comprendre aux gouvernants qu'il y a quelque chose à faire. Parce que de toute façon, l'UIT, qui est l'Union internationale des télécoms, a un regard sur tout ce qui concerne l'évolution des TIC dans nos pays africains. Donc à un moment, il faut...
Vous croyez qu'ils en tiennent compte ? Vous croyez vraiment qu'ils en tiennent compte ? Alors là, vous parlez du fait qu'il y a des jeunes qui se forment. Oui. Mais est-ce qu'on peut se former comme ça, là, s'il n'y a pas un lieu préparé, un endroit préparé, comme le Rwanda le fait, par exemple ? Les États-Unis ont la Silicon Valley. Est-ce qu'on peut développer le numérique chez nous sans ce type d'institution ou ce type d'organisation?
Vous parlez des espaces de coworking, ouais, ou de K-Lab ou de iHub, par exemple?
Tout cet ensemble de choses.
Je pense que c'est la magie. Je pense que c'est la magie du numérique, justement, c'est qu'on est libre et on peut faire des choses extraordinaires avec très très peu. On peut changer le monde et créer un empire avec un smartphone de moins de 25 000 francs CFA. Le numérique aujourd'hui, pour moi, c'est comme l'électricité il y a quelques décennies. En fait, ce n'est plus une industrie à part entière. C'est vraiment la matière première, la ressource qui va booster, comme le disait Youssef tout à l'heure, la santé, l'éducation et tout un tas de choses. Et on a vu des talents. On a vu un jeune Camerounais de la région d'Oubamenda, par exemple, gagner...
Dans la zone anglophone.
Voilà, exactement. Un concours qu'aucun Africain, me semble-t-il, n'avait gagné jusque-là, organisé par Google de développement.
Oui. Il est formé à Oubamenda.
Un gamin de 17 ans.
Voyagé.
L'impossible, avec le numérique, l'impossible devient possible.
Et c'était quoi comme invention ?
C'était un concours de développeurs. Quoi. C'était,
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin forcément de cette concentration pour pouvoir développer cela. Ce n'est pas un vrai handicap.
Ce n'est pas.
Ça faciliterait les choses, non ?
Ça faciliterait les choses, c'est clair. Avec un peu plus de législation, beaucoup plus souple de nos États. Mais comme je le disais, c'est peut-être ces difficultés-là qui font un peu notre force en tant que jeune Africain.
On s'en passerait bien si on pouvait aller.
Idéalement, on s'en passerait bien. On aimerait bien avoir le système, par exemple, des États-Unis ou de la France avec, par exemple, la French Tech. Mm-hmm. Aujourd'hui, depuis, je crois, 2 ou 3 mois, la Côte d'Ivoire a voté une nouvelle loi sur la société de l'information. On n'a pas encore eu le contenu de cette loi, donc on essaie de l'avoir. Je passe un appel. Mais il y a des efforts à faire et on n'a pas besoin forcément de se retrouver dans un même espace pour pouvoir utiliser le numérique et en faire sans s'en approprier.
Vraiment ? Je croyais que... Parce que quand vous dites que c'est connexe...
Moi, personnellement, je suis absolument convaincu qu'il faut mettre en place des écosystèmes d'innovation. Mm-hmm. Dire, si on regarde aujourd'hui le secteur des smartphones, par exemple, comment est-ce que des compagnies comme Samsung, Apple, Intel et tout le monde ont développé ça ? Ils se sont mis ensemble. Ça a été de l'open innovation. Donc, ils ont travaillé ensemble pour résoudre tous les problèmes, je dirais, qui étaient communs à tout leur secteur. Une fois que ces problèmes ont été résolus, on est rentré en innovation fermée. C'est-à-dire, chacun a développé
son... De son côté.
Donc, il faut d'abord qu'il y ait un écosystème.
Il faut mettre en place
un écosystème. Oui, c'est clair. C'est pas un frein. Mais c'est une nécessité également de pouvoir se retrouver parce que de toute façon, on a des communautés qui existent. On a le forum des Afriktivistes qui a même été créé à Dakar il y a quelques années. Il y a différents écosystèmes et en général, lorsqu'on se retrouve tous, on est encore plus fort.
Oui, mais est-ce que vous arrivez à vous retrouver ? C'est quelque chose d'un peu compliqué en Afrique.
C'est très compliqué. Si je prends par exemple aujourd'hui l'exemple, je dirais, de l'économie circulaire qui fait appel à des énergéticiens. Donc il faut faire venir les énergéticiens.
C'est compliqué comme mot.
Absolument. Il faut faire venir les cimentiers, il faut faire venir les constructeurs automobiles, il faut faire venir l'aviation. Il faut mettre tous ces secteurs autour de la table pour pouvoir développer une véritable économie circulaire qui va en fait permettre la transition énergétique de l'Afrique. Ça, c'est des secteurs où ça demandera, un gros engagement politique et du secteur privé pour pouvoir vraiment permettre la transition énergétique de l'Afrique. Donc ça, c'est un exemple, c'est un peu...
Alors, on va parler de comment on se développe, on va parler de comment on organise tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les années à venir pour ne pas louper le coche et pour contourner tous les obstacles dont vous avez parlé. On se retrouve dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de ce magazine pour en parler. On sera plus positif. À très vite. Restez à l'écoute.
Le débat africain. Alain Foucault.
Sans connexion, souvent sans volonté politique, comment inscrire l'Afrique de façon définitive dans l'ère du digital? Comment permettre aux talents africains qui, malgré les embûches, sans complexe, créent des solutions nouvelles, d'inscrire le continent dans l'ère du numérique? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain, enregistré ce dimanche au comptoir du fleuve à Saint-Louis au Sénégal, à marge du forum de Saint-Louis, émission consacrée à la place de l'Afrique dans la nouvelle technologie. Peut-elle se développer sans sa Silicon Valley à elle? Avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Youssef Travali, le directeur scientifique de Next Einstein Forum, installé à Kigali, au Rwanda, une des principales plateformes du digital au sud du Sahara, dont la vocation est de découvrir et fournir un lieu pour permettre aux chercheurs africains de s'exprimer, d'être connus et de se connecter. Ils sont à l'origine de la Semaine africaine de la science qui se tient un peu partout sur le continent. Second invité de ce plateau du comptoir du fleuve à Saint-Louis, Edith Brou, la patronne de Africa Contents Group, une entreprise digitale basée à Abidjan. Edith Brou est certainement l'une des blogueuses les plus actives de cette sphère en Côte d'Ivoire. Candace Nkot-Bissek est, elle, la fondatrice de la plateforme digitalfordevelopment.org, ancienne directrice du site de e-commerce Jumia Market au Cameroun. Elle a également été élue numéro 1 de la liste Forbes Africa 30 des moins de 30 ans. Elle est installée aujourd'hui au Ghana. Aissatou Sow, notre quatrième invité, est la directrice du secteur public chez Intel. Et puis le jeune Cédric Atangana, le fondateur de WeCatchUp, une plateforme de paiement numérique qui a été primée comme l'une des grandes innovations du monde, nous a rejoint dans cette seconde partie où je souhaite que nous parlions d'avenir. Comment faire pour que l'Afrique s'inscrive de façon définitive dans le numérique? Mais avant, je voudrais, Cédric Atangana, que vous nous parliez de WeCatchUp, qui vous a propulsé en haut de l'affiche dans le monde, à la fois du numérique, mais également des financiers. C'est quoi WeCatchUp?
Alors, WeCatchUp, c'est une passerelle de paiement universelle qui permet aux entreprises d'e-commerce dans le monde d'accepter les paiements en cash et par mobile money pour les personnes non bancarisées. Mmh. Et désormais aussi les paiements par wallet développés par des banques comme Société Générale, EcoBank, etc. Les paiements par carte bancaire et les crypto-monnaies comme le Bitcoin, Ethereum et Ripple. Donc, c'est une plateforme qui agrège.
Dites des choses que tout le monde comprend. Le Bitcoin, c'est quoi?
Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui a été créée en 2008, si je ne me trompe pas, et qui aujourd'hui se veut devenir une monnaie qui remplace les monnaies fiduciaires qu'on utilise au quotidien.
D'accord. Et vous avez créé WeCatchUp au Cameroun?
Alors, WeCatchUp est une plateforme qui est née justement à Douala au Cameroun, qui a grandi à Nairobi au Kenya et qui aujourd'hui est basée à Marseille en France.
Oui. On a une équipe. C'est la preuve un peu que les frontières tombent avec le numérique, finalement. Il n'y a finalement pas de frontières. Alors, on a dit, on va parler des choses positives. Au-delà des problèmes de connexion que l'on peut avoir, de l'électricité qui ne permet pas toujours de travailler en toute quiétude, dans quel domaine aujourd'hui l'Afrique peut dire on s'est inscrit dans le numérique? Candace.
Mais en fait, ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a des pionniers dans le numérique, dans différents aspects en fait de la vie en Afrique. Il y a des pionniers dans le domaine des jeux vidéo, des pionniers dans le domaine de la santé, comme le cardiopathe d'Arthur Zang. Mais avec tous pour point commun qu'ils n'ont pas encore eu le levier pour aller à la conquête du monde qu'ils mériteraient de conquérir par le talent et la qualité de ce qu'ils proposent.
Mais comment ça s'explique qu'il y ait ce talent-là, qu'ils aient pu créer quelque chose qui marche? Et qu'à l'international, ils soient encore handicapés.
Je pense que c'est l'accompagnement de nos États, en fait. L'accompagnement de nos États, le soutien,
choses, ouais.
C'est toujours le même problème. Il y a également le problème des infrastructures qu'il faut pouvoir également développer. Mais lorsque vous êtes considéré comme un champion national dans le domaine du numérique et que vous êtes accompagné avec les moyens qu'il faut, avec les fonds qu'il faut, c'est clair que vous ne pouvez pas rester uniquement cantonné au domaine, à votre secteur local, mais vous pouvez rayonner dans le monde entier. Donc, c'est vraiment un accompagnement de nos gouvernants qu'il faut.
Youssef?
Oui, en fait, je pense qu'il faut bien comprendre comment est-ce qu'on finance l'innovation et comment on valorise le savoir. Je crois qu'il y a quatre étapes très claires. La première, c'est la génération du savoir, donc la génération de l'idée. Cette étape, en général, elle est financée par le secteur public. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Une fois que l'idée a été générée, on passe à la phase de prototypage. En général, au niveau prototypage, ça demande des financements plus importants. Et à ce moment-là, on commence à voir un peu le secteur privé qui commence à rentrer dans la course et toujours un accompagnement
du secteur privé.
Public. Et puis, on passe à la troisième phase qui est plus importante, c'est la phase de démonstration, qui est une phase qui est vraiment prise en charge par le secteur privé ou par des partenariats publics-privés. Une fois que cette phase de démonstration est, je dirais, avérée, alors on passe à la dernière phase, qui est la phase d'industrialisation, qui est entièrement prise en charge par le secteur privé.
Mais où est-ce que nous pêchons le plus ?
Alors, là où il y a un gap aujourd'hui, c'est au niveau du financement des pilotes et des démonstrateurs. Il faut bien comprendre que quand on est en phase, je dirais, de recherche, on ne peut pas essayer d'intéresser le secteur privé. Donc, beaucoup des technologies dont on a parlé sont dans des phases déjà beaucoup plus matures. Donc, automatiquement, le secteur privé rentre dans la boucle et on assiste à un succès commercial. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne très bien. Et donc, il faut qu'on mette en place des fonds structurés pour vraiment permettre la valorisation du savoir généré.
Mais qui va mettre les fonds structurés ? C'est encore les États ou c'est...
Non, c'est vraiment un portefeuille. Donc, en fait, l'État va apporter quelque chose.
Sa contribution.
Le secteur privé va apporter quelque chose, mais ça dépendra du niveau de maturité de la technologie.
Tout à fait.
Et ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment rentré dans les mœurs.
Mais on a le sentiment que c'est loin de rentrer dans les mœurs quand on voit comment les créateurs, comment ceux qui travaillent dessus tirent le diable par la queue. Vous, dans votre cas, aujourd'hui, est-ce que vous avez des gens qui sont rentrés dans WeCatchUp aujourd'hui ?
Oui, effectivement. Alors, pour revenir un peu sur la problématique de tout à l'heure, je pense que ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est un écosystème. Alors, hormis les aspects purement gouvernementaux, il faut construire un écosystème. Et
un entrepreneur, Youssef en parlait tout à l'heure dans la première partie.
Voilà, justement, un entrepreneur seul ne peut pas réussir. C'est impossible. Parce que généralement, lorsqu'on démarre, on est très spécialisé sur un domaine spécifique. Et pour créer un business, il faut à la fois du juridique, le commercial, le financier, etc. Il faut réussir à créer ces écosystèmes-là. Maintenant, nous, oui, effectivement, dans les phases de développement de notre produit, on a eu affaire à une ouverture de capital. On va dire WeCatchUp, Infinity Space, qui est le nom de l'entreprise. On n'a pas suivi le processus classique de levée de fonds tel que c'est présenté aux États-Unis où on démarre, on fait l'off money, ensuite seed round, série Z, etc. Nous, étant une entreprise basée en France, développant un produit pour l'Afrique, on a eu du mal à trouver des financements en France et en Europe de manière générale parce que le produit n'avait pas un impact immédiat sur le territoire où on était implanté. Et lorsqu'on venait en Afrique, le retour c'était que voilà, vous êtes basé en France. Mmh. Voilà, on était un peu entre deux chaises. Mmh. Et du coup, on a fait un petit tour de love money autour de nous. Nos amis, nos camarades de classe ont investi au début 10 euros, 50 euros, 100 euros, etc. Et petit à petit, ça s'est étendu à leurs parents qui finalement ont cru en nous. Et en parallèle, on participait à des concours de start-up qui nous ont mis en lumière. Et on a remporté le prix de la meilleure start-up du monde à la Silicon Valley. Mmh. Et c'était une grosse validation pour nous qui nous a donné une grosse visibilité, qui a attiré les clients vers nous. Et on a réussi à lever 1 million d'euros sur LinkedIn, sur le réseau social LinkedIn, ce qui est quand même assez fabuleux. Avec près de 50 personnes, dont 80% sont basées en Afrique. On est basé à Marseille, hein, mais 80% de nos investisseurs sont basés en Afrique, ce qui est assez exceptionnel. Quand même. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent investir, qui veulent investir, mais parfois qui ne savent pas comment investir. Mmh. Donc, ça fait partie aussi des éléments...
Alors, quel conseil donner alors dans ce domaine ? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous dites qu'il y a des gens qui ont envie d'investir, qui ne savent pas comment ça se passe. Comment faire pour qu'ils prennent le train, même s'il est déjà en marche, mais qu'ils le prennent bien ?
Alors, à mon avis, je pense qu'il faut, s'appuyer sur des labs. On a le K-Lab au Rwanda, il y en a de plus en plus. Voilà. Et pour moi, la matière première d'un lab, c'est l'expérience des personnes qui pilotent ce lab-là. Il faut... Un entrepreneur, il n'y a qu'un entrepreneur pour guider un autre entrepreneur.
Candace ?
Oui, pour rebondir sur ce que Cédric a dit, donc il y a tout un écosystème croissant de labs, d'accélérateurs, d'incubateurs par lesquels il est facile de passer pour identifier les vrais talents de l'entrepreneuriat du numérique de demain. Mais ça passe aussi par avoir une culture de l'innovation parce qu'effectivement, on est très prompt à identifier les limites existantes de nos gouvernements. Mais il faut aussi savoir que l'innovation dans d'autres écosystèmes a aussi été soutenue par les acteurs privés, comme disait Youssef. C'est-à-dire que un magnat du ciment, un magnat de l'agroalimentaire, etc., qui se dit, tiens, ces petits un peu dynamiques, là, ils peuvent faire avancer nos industries. On va mettre un peu d'argent et voir ce que ça donne. Malheureusement, aujourd'hui, tous les entrepreneurs dits classiques, les success stories entrepreneuriales africaines, il y en a encore trop peu qui croient suffisamment ou qui se donnent la capacité de soutenir l'innovation.
De
et
soutenir l'innovation.
Avec une culture d'innovation en Afrique, on pourra avoir plus de personnes.
Ça revient à ce que disait Youssef tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que chacun évolue un peu de façon...
Et par silo.
Voilà. Et qu'il est peut-être venu le moment de mettre les gens ensemble. Mais qui va mettre les gens ensemble ? Est-ce que ce n'est pas vous qui travaillez dans ce secteur-là qui devez amener les gens à comprendre que voilà, Edith Brou ?
Je pense que là, à ce moment, c'est ce qu'on appelle de l'advocacy. c'est-à-dire défendre des idées, rassembler le maximum de personnes. Il faut se dire qu'on se retrouve la plupart du temps dans certains événements, dans certaines rencontres dédiées à l'écosystème du digital, à l'innovation numérique, mais un événement encore plus grand qui rassemblerait tous ces acteurs régulièrement, et je pense qu'il en faut encore. Mais pour revenir sur la préoccupation dont on parlait tout à l'heure, qui va faire de telle sorte que ce secteur se développe ? Elle a parlé du secteur privé. Le secteur privé a les moyens. Le secteur privé a les moyens de développer ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Il y a des fonds. Il y a
Peut-être que le secteur privé n'est pas suffisamment averti encore dans ce domaine-là. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de vous-même ?
C'est ce que je dis, la sensibilisation, l'advocacy, et montrer également que ces start-up qui sont en train de se développer dans le domaine de l'innovation, du numérique, du mobile money par exemple, ont un potentiel économique, parce que de toute façon ce sont des entrepreneurs, des financiers, ils veulent voir la rentabilité, mais derrière la rentabilité, de plus en plus on parle de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc nous, de notre côté, on essaie de jouer sur ce volet en montrant qu'il est important de pouvoir réinvestir dans la chaîne de valeur pour pouvoir faire prospérer l'environnement dans lequel vous trouvez. Vous êtes dans le domaine de la cimenterie, vous êtes dans le domaine même du e-commerce, par exemple. Créer des labs d'innovation à l'intérieur. Ce que, par exemple, Société Générale a très bien réussi avec son lab innovation, où elle essaie de développer cet esprit d'innovation au sein de ses employés et connecter ses employés avec des jeunes start-upers où ils peuvent échanger des idées et permettre à ces start-upers qui apportent leurs idées de se développer et de devenir prospères. Plus d'entreprises devraient faire ça, et bon, je pense qu'en tant qu'activiste et influenceur, on essaie de travailler à ça.
Youssef ?
Oui, mais alors là, pour moi, vous me tendez vraiment la perche, parce que je vais vous parler du Next Ancient Forum, de l'organisme pour lequel je travaille à Kigali, qui est vraiment né du constat qu'il y avait justement ce déficit de plateforme où tout le monde pouvait se rencontrer, les leaders politiques et ceux qui font les régulateurs, les chercheurs et la société civile, pour discuter de ce qui se fait, vraiment illustrer ce qui se fait sur le continent africain. Et donc à ce titre, je ne peux que vous inviter à Kigali en mars 2018 pour assister au Global Gathering, donc à la rencontre internationale du NEF, où on va vraiment amener tous ces acteurs, je dirais, de la société autour de la table pour vraiment showcase, donc montrer ce qui se fait de mieux en Afrique, par des chercheurs africains qui sont de par le monde, donc les lauréats du NEF, comme on les appelle.
C'est-à-dire que vous allez faire venir tous ces chercheurs-là dans un endroit enfin, ce qui n'est pas habituel, dans un endroit enfin pour discuter l'avenir.
Absolument.
Et discuter le projet.
Et pour montrer en fait comment est-ce que l'Afrique en fait contribue au développement, à l'innovation, non seulement en Afrique, mais au-delà de l'Afrique.
Et justement, il faut compléter un peu ce qu'il disait. Nos investisseurs, nos success stories africaines ont besoin d'être éduqués. Donc, les investisseurs aussi ont besoin d'être éduqués sur le numérique. On comprend que c'est extrêmement difficile d'expliquer à quelqu'un qui a fait fortune dans l'agriculture ou dans l'industrie.
Ou dans le commerce.
Voilà, qu'une entreprise comme Snapchat, qui n'a que 5 ans d'existence, a une valorisation plus importante que Peugeot, qui est une entreprise qui a plus de 100 ans d'existence. Donc, il faut éduquer nos investisseurs, leur dire désormais le numérique c'est un axe, c'est un levier de croissance extrêmement fort. Vous pouvez mettre votre argent dedans et en moins de 5 ans, vous générez plus de revenus que ce que vous avez déjà généré aujourd'hui. Et il y a des initiatives justement qui ont déjà démarré, allant dans le sens l'éducation des investisseurs, le Africa Business Angel Network, par exemple piloté par Rebecca Enonchon et d'autres personnes. Donc il y a des gens qui ont commencé déjà à réfléchir dessus. On ne devient pas investisseur. Devenir investisseur, c'est juste on décide et on y va. Donc on peut juste être cadre d'entreprise et avoir juste 1 million de francs CFA, 2 millions et commencer à investir.
Commencer à investir dedans. Ça va peut-être inspirer nos jeunes qui prennent le chemin de la Libye avec 5 millions dans la poche et qui se font réduire à l'esclavage.
Oui, malheureusement.
Candace.
Mais même pour aller même plus loin, quand on regarde ce qui s'est passé en Occident, dans des entreprises comme Nokia ou Kodak qui étaient leaders de leur marché et qui se sont quasiment disparu, voilà, c'est le cas même d'entreprises qui étaient au sommet de leur art, qui ont raté le coche de l'innovation, non pas parce qu'il n'y avait pas des innovateurs dans leurs équipes, parce que c'est important de recruter ces innovateurs, etc. C'est parce qu'ils n'ont il y a des gens qui ont anticipé, mais on n'a pas donné le pouvoir de décision à ces personnes-là. Parce qu'il y a des gens au sein de Nokia et au sein de Kodak qui ont dit attention, il y a ce truc-là qui arrive, il faut qu'on prenne le train en marche. Et il y a des personnes mieux positionnées qui n'y croyaient pas, qui ont dit non, nous, on a ça qui a toujours marché et il faut changer. Donc je pense qu'il est très important et c'est un signal à envoyer aux entrepreneurs africains, aux entrepreneurs traditionnels qui réussissent depuis quelques décennies.
De s'intéresser au numérique. C'est là-bas que ça se passe.
Et de recruter les talents et de leur donner un pouvoir de décision.
Et ces talents-là sont sur place. Ces talents-là existent aujourd'hui.
Absolument.
Le numérique, c'est une nouvelle chance.
Oui, c'est une nouvelle chance. Mais c'est une nouvelle chance. Et pour rebondir sur ce que Candace disait, il faut qu'on apprenne, en tout cas dans nos pays, surtout nos devanciers, ceux qui ont fait fortune, à avoir la culture du risque, mais à également grandir et voir dans l'avenir avec les nouvelles générations. Parce qu'on a peur de prendre des risques, d'investir, on a peur de perdre ses acquis, mais on va perdre ses acquis peut-être d'ici quelques années si on n'accompagne pas ces jeunes entreprises, ces jeunes pousses qui sont en train de se développer. Elle a parlé de Kodak. Peut-être que parmi, au sein de l'équipe de Kodak, il y avait deux ou trois gars qui avaient cette vision, mais ils n'ont pas été écoutés dans le management et ils se sont retrouvés rattrapés par l'innovation.
Alors, on a dit que le numérique tenait compte des réalités locales, que ça répondait souvent aux attentes de ceux qui sont sur place. Il y a aussi le domaine de la santé. Est-ce qu'on ne perçoit pas un frémissement dans ce sens-là?
Absolument. Par exemple, dans l'exemple du Cameroun, on l'a évoqué précédemment, Arthur Zang avec le Cardiopad. On a aussi Alantef avec l'application Gifted Mom, qui est un excellent levier pour réduire la mortalité infantile. Mm-hmm. Pas infantile, mais même la santé de la mère porteuse. Mm-hmm. Une application qui lui permet, pour les mères qui n'ont pas accès à des docteurs pour suivre leur grossesse régulièrement, une application et un système de messagerie qui leur rappelle à quelle fréquence faire des visites, etc. etc.
Donc, moi, je pense que le domaine de la santé, on parle de e-santé, c'est vrai. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de start-up qui travaillent à développer des produits. Par exemple, le savon développé au Burkina pour lutter contre le paludisme ou le cardiopad. Mais le problème, c'est que la santé en Afrique est une zone sinistrée.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Sinistrée. Nos hôpitaux sont sinistrés.
C'est des mouroirs.
Ouais. C'est des mouroirs. Même on parle de pouvoir synchroniser même la fiche du patient. Mmh. On se retrouve toujours
à utiliser
des papiers,
des choses simples. C'est des choses simples à faire, c'est-à-dire numériser déjà même ces hôpitaux où on meurt.
Et on revient toujours à l'humain. Quand on prend à l'intérieur du pays des zones aussi reculées, par exemple dans le centre ou dans le nord, des femmes accouchent encore dans des centres de santé qui n'ont même pas de coton ou d'alcool.
Tout à fait.
Donc il y a encore un enjeu même au niveau du budget qui est accordé à la santé, dans nos pays africains.
Avant qu'on ne passe d'aller aux e-santé. Il y a aussi quelque chose qu'on a remarqué, c'est que là, le complexe est un peu tombé. Aujourd'hui, on voit des applications naître en Afrique. Il y a des entreprises digitales qui créent des applications en Afrique sans avoir le complexe de là-bas. Non ?
Il y en a justement de plus en plus sur le continent. Moi, je connais, il y a une jeune start-up qui est au Nigeria qui s'appelle Form Plus, qui développe des formulaires d'enquête. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire une enquête, immédiatement, on pense à Google Form. Mais cette jeune start-up-là a développé un super logiciel qui est beaucoup plus performant que Google Form et qui aujourd'hui est utilisé aux États-Unis et en Europe et à 5% en Afrique. Ils sont au Nigeria, ils développent un produit mais qui est utilisé à l'extérieur. Donc, c'est pour montrer notre capacité aujourd'hui à produire des logiciels qui peuvent répondre à des problèmes globaux.
Absolument. On a de plus en plus des applications faites totalement en Afrique.
Oui, je pense qu'on a, comme tu l'as dit, on a plus ce complexe d'applications développées à l'extérieur. On a de nombreux développeurs dans nos pays africains qui proposent des solutions, des applications qui fonctionnent, peut-être pour l'instant sur les marchés locaux. Voilà, sur les marchés locaux et qui ont peut-être pas la possibilité de se développer encore à l'extérieur. Le Nigeria, c'est un super exemple et tout, mais par exemple, en Afrique francophone, on a des applications qui existent, mais qui restent encore toujours à l'état embryonnaire dans nos états.
Moi, j'ai People Input. Hein,
j'ai fait une petite publicité au très bon exemple. Archive d'Afrique.
qui est au Sénégal.
Oui, mais je pense, de manière générale, je pense que l'innovation doit s'accompagner d'une acceptation par le public. Je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Je crois que quand on innove dans un secteur, si on n'a pas fait un travail sur le public, c'est difficile de voir la technologie acceptée par le public.
Merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le temps court vite. Merci. Et bon courage dans votre entreprise. On espère que vous allez mettre l'Afrique au même niveau que les autres, au moins. Merci. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.